Heureux ceux qui procurent la paix, a dit Jésus. La paix, quel mot ambigu, quel mot irritant, car tandis qu'on le répète inlassablement, comme une invocation, partout des troubles, des guerres, des conflits et des tensions divisent les hommes et les nations, semant l'angoisse, l'injustice et le malheur. Le prophète Jérémie se plaignait déjà de ce qu'on disait « paix, paix » et il n'y a point de paix. Quelle est la signification de ce mot? Nous avons dit tout à l'heure qu'il paraissait ambigu. En période de guerre, c'est l'arrêt des combats. Pour celui que tourmente le bruit, la paix c'est le silence. Pour celui qu'assiège les soucis, la paix c'est le règlement rapide de toutes ses affaires. On parle aussi de la paix de ceux qui sont morts, parce que les malheurs de la vie ne les atteignent plus. Toutes ces définitions font dépendre la paix des circonstances extérieures. Lorsque les hostilités cesseront, lorsque le bruit cessera, lorsque mes dettes seront payées, lorsque l'équilibre sera rétabli, mais comme tout cela est précaire, comme cet équilibre est instable. Dans la bouche du Christ et de ses apôtres, le mot « paix » a un sens plus profond, plus vrai. Il désigne un état d'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un calme, une sécurité intérieure qui s'incruste malgré les tempêtes du dehors. « Je vous laisse la paix, dit Jésus à ses disciples. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Sa paix à lui est différente de celle du monde. Elle a un autre goût. Elle a un caractère invulnérable. Cependant, tandis qu'elle peut s'installer dans le tréfonds de l'homme en dépit des circonstances extérieures, elle est destinée à rayonner vers cet extérieur tourmenté pour l'apaiser à son tour par une sorte de contagion. Jésus n'a pas dit « heureux ceux qui ont la paix » car cela allait de soi. Il a dit « heureux ceux qui procurent la paix ». Il a parlé d'une activité, d'un dynamisme, d'un travail qui consiste à donner la paix ou plutôt à la construire. Les traducteurs de la Bible de Jérusalem ont trouvé cette très belle et éloquente formule qui exprime très justement l'idée de travail. Heureux les artisans de la paix. Hélas, à considérer l'histoire de l'humanité, on pourrait croire que le mot d'ordre a été « heureux les artisans de la guerre, heureux ceux qui procurent des plaies ». Devant l'immensité de la tâche, on peut à peine réprimer un réflexe de découragement. Le travail que confie le maître n'est-il pas au-delà des possibilités humaines? Est-il réalisable? C'est ici qu'il faut faire le point. Nous raisonnons parfois comme cet apprenti alpiniste qui s'imagine que pour sa première ascension, on va le mettre au pied de l'Everest en lui indiquant le but à atteindre 8845 mètres plus haut. Il a raison de se décourager à l'avance. Mais ce n'est pas ce qu'il attend. On va procéder progressivement. Et même s'il ne parvient jamais à l'Everest, par cette méthode, il deviendra quand même un excellent alpiniste, un excellent guide dans l'art d'escalader les montagnes. Le Seigneur ne nous demande pas de pacifier le monde d'un seul coup. Il nous encourage à commencer par le commencement. Commence par toi-même. Comment espères-tu travailler à la paix du monde si toi-même, par ta susceptibilité, ta colère, ton égoïsme et tes penchants, tu constitues une menace à la paix de ta famille, de ton bureau, de ton entourage, si toi-même tu es déjà une guerre en puissance? Ne peut être un artisan de la paix que celui qui est converti au prince de la paix, c'est-à-dire celui qui a librement choisi de donner à sa vie l'orientation que le Christ désire. L'apôtre Paul résume ainsi la vie du chrétien. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » L'artisan de la paix doit savoir quels sont les principaux obstacles à la paix. C'est ici qu'il faut mentionner l'orgueil qui veut à tout prix s'élever au-dessus des autres, l'orgueil qui veut toujours avoir raison, l'orgueil dominateur et ambitieux qui se raidit et s'obstine jusqu'à ce que l'on cède, l'orgueil qui écrase et humilie, l'orgueil qui a mauvaise foi. Il y a aussi cet autre obstacle majeur à la paix que constitue une langue insensée qui dit n'importe quoi, n'importe quand. Nous avons d'ailleurs consacré, il y a quelques semaines, une causerie à ce sujet. Je crois que Jacques a résumé d'une manière extraordinairement sobre et forte l'attitude du chrétien à cet égard. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Paul semble enchaîner cependant avec cette recommandation « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » C'est là toute une leçon sur la maîtrise de soi, une qualité bien rare qui évite bien des déchirements. Mais il y a aussi le visage hideux et atroce de la vengeance sous toutes ses formes. Il y a en chacun de nous un désir inassouvi de justice. Ce désir est tellement fort qu'il nous pousse parfois à établir notre propre justice, qui n'est, hélas, qu'une caricature de la justice. La vengeance a le visage de Satan. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, s'écrit l'apôtre Paul, mais laissez agir la colère de Dieu. » Le visage de la paix, au contraire, nous apparaît dans l'attitude du patriarche Abraham, à l'égard de son neveu Lot. Leur troupeau à tous deux était si considérable que la contrée où ils s'étaient établis devenait insuffisante. Les bergers des deux clans se querellaient et se plaignaient à leurs chefs respectifs. L'affaire aurait pu mal tourner, car Abraham, plus âgé que Lot, aurait pu prier ce dernier de chercher d'autres pâturages. Mais voici ce que la sagesse et l'amour de la paix lui ont dicté. Il dit à son neveu, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Voilà un cas précis où, pour préserver la paix, un homme a cédé de ses droits à la priorité pour laisser le passage à son frère. Quelques siècles plus tard, l'apôtre Paul écrira « Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Point d'orgueil dans cette attitude, point d'égoïsme, mais une grandeur dans l'humilité et l'effacement. C'est là un outil précieux dans la main de l'artisan de la paix. Un autre outil dont le monde ne se sert pas, c'est le pardon. Supportez-vous les uns les autres, implore l'apôtre Paul. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est là tout un apprentissage. Mais s'il se fait dans le souvenir de l'amour de Dieu, il est à la portée de tout homme de bonne volonté. Il est évident qu'il n'est pas toujours possible de faire la paix. Très réaliste, l'apôtre Paul dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » De même, le Christ prévient ses disciples « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ceci peut paraître paradoxal, mais il explique qu'à cause de l'Évangile, la division s'installerait parmi les hommes, et même parmi les membres d'une même famille. Certains seraient pour lui et d'autres contre lui. La paix n'est donc pas toujours réalisable, et il n'est pas question de l'obtenir à n'importe quel prix, comme par exemple au prix de convictions religieuses. On peut sacrifier des opinions pour préserver la paix, et conserver un ami par exemple, mais pour la même raison, a-t-on le droit de compromettre la foi ? Il faut parfois choisir entre deux sacrifices, l'amitié des hommes ou l'amitié du Seigneur. Il n'y a pas de compromis possible. Notre christianisme est malade précisément parce qu'on a inventé des compromis entre la volonté de Dieu et celle des hommes. Mais il nous faut clôturer nos remarques. Les textes ne manquent pas. En fait, il n'y a pas de paix possible dans le cœur de l'homme, et cet homme ne peut pas devenir un artisan de la paix s'il ne garde un contact intime et régulier avec les textes de l'Écriture, avec la parole vivante de Dieu. Nous avons choisi pour terminer cette recommandation de l'apôtre Pierre qui ressemble à une clé de la vie. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.